Deutsche Welle. Droits et libertés.
Et si la famine était une invention humaine, ou plus exactement la faute des humains qui se font la guerre et ou préfèrent s'en mettre plein les poches plutôt que de prendre des décisions politiques conformes à l'intérêt général et au bien commun. Nous nous pencherons cette semaine sur les cas exemplaires du Soudan du Sud et de la Somalie. Et puis nous parlerons aussi de pertes de sang que subit chaque mois la moitié de l'humanité par voie génitale. Et oui messieurs, nous allons parler menstruation. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. La sécheresse est l'un des facteurs qui explique la famine qui sévit en ce moment en Afrique de l'Est. Des guerres et des actes terroristes compliquent encore la situation et entravent l'aide internationale humanitaire aux populations qui, il faut bien le reconnaître, n'est de toute façon pas très abondante. Quoi qu'il en soit, au Soudan du Sud comme en Somalie, une catastrophe de grande ampleur guette les habitants. Une catastrophe créée et entretenue par les humains. Abdi Kafi a 5 mois et elle a faim. Fatoumata Ali, sa grand-mère, sait que le nourrisson souffre de sous-nutrition grave et a besoin d'une aide médicale d'urgence.
Je suis venue de la campagne à cause de la sécheresse et parce que le bébé est malade. Ma fille, sa mère, est morte en couche.
Devant le centre pour enfants de la ville de Kismayo, dans le sud de la Somalie, des dizaines de jeunes femmes font la queue avec leurs enfants. Des employés de la Croix-Rouge pèsent les enfants, leur donnent des compléments nutritionnels, placent les nourrissons les plus faibles sous perfusion. Mohamed Guedri, de la Croix-Rouge, travaille ici.
Ces 6 derniers mois, c'était vraiment terrible. Ça rappelle la famine de 2011. Ici, à l'époque, 50 000 personnes sont mortes de faim. Alors les gens ont peur parce que le nombre de nos patients n'a pas cessé d'augmenter depuis le début de l'année.
La sécheresse en Somalie pourrait amener une nouvelle famine. Près de la moitié de la population a déjà besoin d'aide alimentaire. Des milliers de gens ont fui de chez eux en quête d'eau et de nourriture. Parmi eux, Mohamed Ali.
On en est réduit à accepter des dons parce qu'on n'a plus rien. C'est triste. On n'a pas assez pour nourrir nos 7 enfants. J'ai peur que la situation ne nous échappe totalement. On a besoin de beaucoup d'aide.
Mais cette aide internationale arrive au compte-gouttes. Pas seulement en Somalie, c'est la même chose au Soudan du Sud, au Nigeria, au Yémen. En tout, plus de 20 millions de personnes ont faim dans ces 4 pays-là, comme l'a déclaré Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies.
L'un des principaux obstacles auxquels nous sommes confrontés, c'est le manque de financement. Dans ces 4 pays, nous aurons besoin cette année de plus de 5,6 milliards de dollars pour l'aide humanitaire. Or, pour l'heure, nous ne disposons que de 90 millions, soit 2 centimes par dollar dont nous avons besoin. Certes, nous n'en sommes qu'au début de l'année, mais ces chiffres sont inquiétants.
D'autant que les États-Unis, qui figurent parmi les principaux contributeurs au monde, risquent de diminuer substantiellement leur aide si l'on en croit les projets de budget de Donald Trump. Mais la lutte contre la faim ne se heurte pas qu'au manque d'argent, comme en témoigne Omolola Adele Osso de l'organisation Act for Accountability.
This is also corruption.
C'est aussi un problème de corruption. Au Nigeria, par exemple, chaque fois que du riz est donné, on le transvase dans un autre sac pour le revendre au marché. Beaucoup d'aliments n'arrivent jamais jusqu'aux bénéficiaires de départ.
La corruption touche tous les niveaux de la société. Souvent, les responsables politiques ne sont guère plus honnêtes que les autres maillons de la chaîne. Et puis, il y a bien sûr les problèmes de sécurité qui aggravent la détresse alimentaire des populations. Dans les zones où des groupes armés comme Boko Haram ou Al-Shabaab sont actifs, ou comme au Soudan du Sud, quand la guerre civile empêche l'accès aux habitants. Stephen O'Brien, coordinateur de l'aide d'urgence des Nations Unies.
The situation is worse than it has ever been.
La situation n'a jamais été aussi grave. La famine au Soudan du Sud est de la responsabilité d'individus. Les parties en conflit sont responsables de la faim, tout comme ceux qui ne font rien pour arrêter les violences.
Depuis décembre 2013, c'est-à-dire depuis le début du conflit au Soudan du Sud, près de 80 humanitaires ont été tués. C'est terrible pour eux et leurs proches, bien sûr, mais c'est encore pire pour les centaines de milliers de gens qui ont besoin que l'aide soit acheminée.
Je sais bien que rue de Belleville, rien n'est fait pour moi. Mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, rêver c'est déjà ça.
En Ouganda, la déperdition scolaire touche près de 3 écoliers sur 4, surtout les filles. L'une des raisons de cette rupture, c'est que souvent, quand les filles ont leurs règles, elles manquent l'école pendant plusieurs jours. Les serviettes hygiéniques et les tampons sont trop chers pour de nombreuses familles. Or, quand on manque l'école 3, 4 ou 5 jours par mois, on ne peut pas maintenir le niveau et on est condamné à échouer aux examens. Les cours sont terminés, mais au lieu de rentrer à la maison, une douzaine de filles en uniforme bleu et blanc se réunissent dans une salle de classe de l'école élémentaire de l'organisation CARE. On tire les tables ensemble, on installe des machines à coudre, des ciseaux, des bouts de tissu et des patrons de couture sont étalés devant les jeunes filles. Sadat Ndouyera anime un atelier de bricolage. Cet artiste de 27 ans a grandi lui-même dans des quartiers pauvres et a bien vu que ses sœurs manquaient l'école une semaine par mois quand elles avaient leurs règles. Alors, il a eu une idée. Sadat a essayé plusieurs choses et puis s'est lancé dans des ateliers scolaires pour apprendre aux filles à fabriquer leurs propres serviettes hygiéniques.
Cette serviette absorbe l'épanchement de sang. Elle est faite à partir d'anciennes serviettes de toilette, de cotonnades, et est bien plus absorbante que les bouts de tissu que les jeunes filles utilisent d'ordinaire. Après l'utilisation, il suffit de les laisser tremper dans l'eau une nuit. Le matin, on les lave bien jusqu'à ce qu'elles soient bien propres, puis on les étend au soleil pour les faire sécher. Ensuite, on les repasse à fer très chaud pour tuer jusqu'aux dernières bactéries. Et puis on les range dans un endroit propre pour garantir une bonne hygiène.
Pour l'équivalent de 5 euros, les jeunes filles ont ainsi une serviette hygiénique réutilisable. C'est vrai que pour de nombreuses familles à Kampala, 5 euros, c'est déjà beaucoup d'argent. Mais Catherine Nantoumé, 14 ans, elle, est heureuse d'avoir découvert cet atelier. Elle aussi manquait systématiquement l'école en période de menstruation, de peur que ses camarades ne se moquent des taches de sang sur son pagne. Maintenant, elle coud ses serviettes hygiéniques elle-même.
I missed school, but when I'm at home, I was not comfortable because I was feeling.
Je manquais tout le temps les cours et ça me rendait très malheureuse parce que je m'ennuyais à la maison. J'adore ce projet parce que ça m'a permis de bricoler moi-même mes propres serviettes hygiéniques. On en fabrique beaucoup et puis on les distribue gratuitement dans d'autres écoles, à la campagne. Parfois, on apprend aussi aux filles de là-bas à coudre ces serviettes. Et on espère qu'elles aussi iront ensuite en distribuer aux autres.
Les règles et les serviettes hygiéniques sont des sujets tabous en Ouganda comme dans beaucoup d'autres pays. Et pourtant, en ce moment, on en parle partout, sur Facebook et même au Parlement, parce que ces thèmes sont liés à l'égalité entre les sexes. Lors de la dernière campagne présidentielle en 2016, le président Museveni avait promis de distribuer gratuitement des serviettes hygiéniques dans les écoles. Cela lui a valu de nombreuses voix féminines. Il a nommé sa femme, Janet Museveni, ministre de l'Éducation. Mais Mama Janet, comme on l'appelle, s'est rapidement rendu compte que les caisses de l'État ne disposaient pas des moyens nécessaires à la réalisation de ses promesses électorales. Une célèbre militante féministe du pays, Stella Nyanzi, a alors lancé un appel à contribution sur Internet, un crowdfunding, dans l'espoir de récolter assez d'argent pour pouvoir distribuer 10 millions de serviettes hygiéniques réutilisables dans les écoles du pays.
La biologie, c'est de la politique, un jeu de pouvoir. Nous voyons bien lors des examens nationaux que les filles les plus pauvres ont de plus mauvais résultats. Dans les villes là où les filles ont un peu d'argent, les résultats sont à peu près les mêmes que ceux des garçons. Ça me met en colère de voir que le gouvernement est au courant, qu'il fait même des promesses contre ce phénomène et que finalement il ne fait rien. L'émancipation de la femme ici en Ouganda, c'est une vaste blague. On a plein de vagins au Parlement, mais il faut maintenant qu'elles prouvent, ces députées femmes, qu'elles ont aussi un cerveau.
Vous l'avez compris, Stella Nyanzi recourt volontiers à la provocation. Elle a lancé une campagne sur les réseaux sociaux sous le hashtag Pads for Girls Hug pour en appeler aux femmes de pouvoir et en particulier à la première dame, Janet Museveni. Et son appel fait des vagues. D'ailleurs, Stella a déjà été convoquée par la police, soi-disant parce qu'elle aurait insulté la femme du président sur Facebook. Elle a été interpellée à l'aéroport alors qu'elle était en partance pour l'Europe. Stella s'attend toujours à être arrêtée par les forces de l'ordre, alors que tout ce qu'elle veut, c'est que ses concitoyennes puissent continuer à vivre comme si de rien n'était quand elles ont leurs règles. Un phénomène tout ce qu'il y a de plus naturel, puisque le sang s'écoule au moment où les muqueuses utérines se renouvellent en l'absence de fécondation de l'ovule, c'est-à-dire si la femme n'est pas enceinte. C'est la fin de ce magazine. Merci à Linda Staude et Simone Schlinfein pour les sons. Vous pouvez réagir en nous écrivant à français@dw.com et télécharger nos émissions en vous rendant sur notre site internet dw.com/français dans la rubrique Nos podcasts tout en bas de la page d'accueil. Salut et à la semaine prochaine.
J'ai la peau couleur pétrole, donc tu connais ma richesse. Beaucoup trop loin sont mes comores, donc tu connais ma tristesse. Même si j'ai poussé loin de la terre de mes ancêtres, dis-toi bien que mon archipel, c'est la racine de mon être. Yes, je suis français, fier de l'être. Mais quand je reçois ces lettres, j'ai le tsunami sur mes pommettes. Dans ma tête, des images refont surface. Le visage de mon grand-père, les mariages au village. Sache que je ne peux oublier l'odeur du poisson grillé. Quand j'allais me promener avec ma mère sur le marché. Pour me réveiller, l'appel pour aller prier. Et puis sur un champ, on trouvait des cannes à sucre à mâcher.